Bonjour à toutes. Donc pour cette journée de formation et de réflexion sur une question qui n'est pas très simple, c'est la question de Dieu et l'argent. Et c'est certainement quelque chose sur lequel il faut avoir une vraie intelligence pour pouvoir savoir dans quelle mesure on est à même d'avoir une relation paisible avec les choses temporelles. Sachant que, a priori, il y aurait comme un hiatus entre Dieu et l'argent. Mais déjà, avant même la révélation du Seigneur, on pouvait lire, par exemple, dans Antigone de Sophocle, donc c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, « Rien n'a comme l'argent suscité parmi les hommes de mauvaises lois et de mauvaises mœurs. C'est lui qui met la discussion dans les villes, chasse les habitants de leurs demeures. C'est lui qui détourne les âmes les plus belles vers tout ce qu'il y a de honteux, de funeste à l'homme, et leur apprend à extraire de chaque chose le mal et l'impiété. » Donc, dans cette sagesse grecque, déjà l'argent a été vu comme un obstacle pour aller vers le bonheur et aller vers la perfection de l'âme humaine. Et puis, c'est vrai que saint Paul semble reprendre la même chose lorsque, dans la première lettre à Timothée, il dit « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. » Donc, vraiment, on est dans une situation qui n'est pas facile parce que, déjà, d'entrée de jeu, il semblerait qu'il y ait une épreuve liée à l'argent. Ce soit une forme d'épreuve. Et donc aussi, la manière de révéler, parce que c'est ça l'épreuve, c'est ce qui révèle à l'extérieur ce que l'on possède à l'intérieur de nous-mêmes. On pourrait la définir comme ça l'épreuve. Révéler à l'extérieur de nous-mêmes ce que nous portons en nous-mêmes. Et donc l'argent est présenté comme une épreuve et comme aussi une attitude qui va révéler le cœur de l'homme. Et donc, il semblerait donc qu'il y a aussi une certaine difficulté. Alors, on va voir plusieurs points, et en nous appuyant surtout sur la parole de Dieu, pour pouvoir un peu avoir des lumières, pour avoir une juste vision des choses. Alors, le premier point, c'est qu'il y a eu toujours un complexe, une sorte de malaise, des catholiques face à l'argent, qui est considéré comme une sorte encore de tabou, de gêne, même un sens de la culpabilité, quand on en a, bien sûr. Quand on n'en a pas, on désire en avoir, mais quand on en a, une sorte de culpabilité, on se dit, mais pourquoi est-ce que moi j'ai des richesses matérielles et tant d'autres que je vois à la télévision qui me sont présentées avec beaucoup de pauvreté, et pourquoi eux n'ont rien. Donc, sorte de culpabilité. Et parfois même, à l'intérieur de l'Église, on a entendu un langage, peut-être plus maintenant, mais dans l'après-concile, où on opposait les pauvres et les riches. Et donc, il y avait une sorte de... Les gens aisés se sentaient comme un peu rejetés par l'Église, comme s'ils ne... pratiquaient pas l'évangile parce qu'ils avaient des richesses. Opposition pauvre et riche, donc dans cette logique marxiste qui a aussi influencé une partie de l'Église catholique, il y a eu comme cette opposition. À tel point, je prends un exemple, dans un autre pays, San Salvador, El Salvador, Amérique centrale, il y avait une personne aisée qui était morte, personne très, très riche, et comme c'était le régime sandiniste, si je ne me trompe, à cette époque-là, et donc d'influence marxiste, personne voulait enterrer, aucun prêtre ne voulait enterrer cette personne-là pour ne pas être taxé de complaisance avec le capital. Donc il a fallu trouver le prêtre le plus marxisant possible, de façon qu'il puisse enterrer cette pauvre dame, qui avait des richesses, mais sans être taxé, évidemment, de complaisance. Donc on voit jusqu'à quel point c'est arrivé à une forme d'idéologie. Cette question de l'argent a suscité de très vives passions à l'intérieur même de l'Église. Donc il y a une certaine, on peut dire, ambiguïté. Alors, la position de l'Église est assez originale, parce qu'à la fois, elle a un elle a trait à un domaine personnel et à la fois un domaine communautaire. Et c'est ce qu'on va voir en nous appuyant sur l'écriture. Il y a à la fois une partie personnelle et une partie communautaire. À la fois une partie positive et une partie négative. Tout n'est pas aussi négatif que ce qu'on vient de lire maintenant. Mais au fond, l'argent va servir à révéler le cœur de l'homme. Une partie positive, parce que, évidemment, il sert d'échange entre les hommes. Il peut être un instrument de communion entre les hommes. De valorisation de leur travail, de valorisation de leurs compétences, de valorisation de ce qu'ils échangent. Donc, il n'y a pas qu'un aspect négatif. En soi, l'argent est neutre. Il est ni bon ni mauvais. Tout dépend d'où il vient et tout dépend à quoi il sert. Mais ça, c'est les personnes qui sont bonnes ou mauvaises. Mais l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il devient bon si la personne est bonne, il devient mauvais si la personne est mauvaise. C'est comme pour tout. C'est comme pour tout. Qu'est-ce qu'on en fait ? Même si Jésus a dit « malheur aux riches » en Luc 6, 20-25, « malheur aux riches », mais à y regarder de près, ça n'a pas une valeur aussi générale que ce que l'on peut croire. Parce que Jésus aussi a eu des amis riches. Lazare, Nicodème, il a accepté qu'on dépense aussi un parfum de 300 deniers, c'est-à-dire une année de salaire, pour qu'on parfume ses pieds. On pourrait dire, mais regarde tous les pauvres. Et pourquoi Jésus n'a pas dit non, va donner aux pauvres ? Remarquez bien, ça a été l'argument de qui ? De Judas. Mais cet argent-là, il servirait aux pauvres. Donc on a voulu opposer, Judas a voulu opposer l'amour de Jésus et l'amour des pauvres. Dès qu'on veut opposer les choses, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis personne n'a trouvé déplacé qu'un homme riche, Joseph d'Arimathie, offre son tombeau creusé dans la pierre, c'est-à-dire qu'on imagine comme une sorte de mausolée maintenant avec beaucoup de marbre, donc un tombeau creusé dans la pierre, l'offre pour la sépulture de Jésus. Donc on voit qu'au fond les choses ne sont pas si simples, ce n'est pas simplement le nombre d'argent que j'ai sur mon compte en banque, ce n'est pas ça que va souligner le Christ. Et puis, l'Église elle-même, elle possède des biens. Vous êtes dans une abbaye qui est aussi une réalité économique. Même si tous ces biens sont le fruit aussi de la générosité des fidèles, mais ils sont aussi au service de la mission. Donc, la possession des biens en elle-même ne pose pas problème. Alors, où est problème ? Le problème, c'est où est-ce qu'est mon cœur ? Où est-ce qu'est mon cœur ? Qu'est-ce qui me fait vivre ? C'est d'avoir le maximum ? Ou est-ce que c'est l'amour du Seigneur qui me fait vivre ? Parce que l'argent aussi peut être ce maître impitoyable qui étouffe la parole de Dieu. Vous vous rappelez l'évangile, la parabole du semeur ? La parole de Dieu, elle a été semée, mais elle est tombée dans les ronds, c'est-à-dire les préoccupations de ce monde, et elle a été étouffée. En Matthieu 13, 22. Une chose, c'est posséder de l'argent, autre chose, se laisser posséder par lui. L'argent est au service de la personne et des personnes, et non pas les personnes ou au service à des biens matériels. C'est remettre, au fond, l'invitation, remettre les choses dans leur finalité. C'est comme pour le Shabbat. Le Shabbat est fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat. Et donc, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est important de voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que c'est ça qui me fait vivre? Est-ce que c'est ça qui me fait me lever le matin? Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que j'accepte les petits dépouillements, les petites incommodités matérielles de la vie quotidienne? Est-ce que je suis libre? C'est ça la question. Est-ce que je suis libre? Parce que Jésus, hein, il est venu appeler, apporter une loi de liberté. Est-ce que je suis libre face à ces réalités? Est-ce que je suis libre face à ma machine à laver la vaisselle? Tac, elle tombe en panne. Pas de chance. Il va falloir tout se taper à la main. Mais est-ce que je suis libre? Vous savez, c'est face à ma voiture qui tombe en panne, face à... Hein, c'est des expériences qui sont toujours assez fortes parce qu'on s'aperçoit au fond combien notre vie quotidienne est modelée aussi par l'usage des biens matériels. Mais c'est appelé aussi à une liberté, à une certaine, une certaine indépendance par rapport à ça. Ce que reproche Jésus, ça va être que les biens matériels vont être le repos de l'âme. Vous vous rappelez cet homme en Luc 12, 15-21, la parabole de celui qui avait fait une bonne récolte. Vous vous en rappelez? Celui qui avait fait une bonne récolte, il avait fait une tellement bonne récolte qu'il fallait construire encore des greniers, construire des... il fallait amasser encore plus. Et puis une fois qu'il avait tout amassé, il a contemplé sa richesse et il a dit cette phrase terrible: « Repose-toi, mon âme. » C'est-à-dire, je trouve le repos dans, au fond, quelque chose qui n'est pas apte à me donner le repos. Et pourquoi ce n'est pas apte à me donner le repos? Parce que je peux toujours avoir plus. Et si j'avais un grenier, si j'en avais 2, 10, 20, 100? Et c'est ça le problème, c'est que l'argent ne peut donner le repos parce qu'il est de sa nature tant à l'infini et donc ne peut pas procurer le repos à l'homme. On peut toujours plus. Et puis une chose ne peut jamais donner le repos à une personne. On en a besoin, ok, mais une chose ne peut pas donner le repos à l'âme. Seule une personne peut donner un repos à l'âme. Que cette personne soit humaine, ce sera un repos humain. Que cette personne soit divine, ce sera un repos divin. Mais à perdre la présence de Dieu, on perd même la notion de personne. Et on demande à des choses ou à des animaux de donner le repos à l'âme des personnes. Hein? J'aime bien les chiens, tout ce que vous voulez, mais je ne vais pas demander à mon chien de combler mon affectivité. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de désordonné. Jésus est venu redire à l'homme qui il était ce pourquoi il était fait, et pourquoi il est fait, il est fait pour la gloire de Dieu. Mon âme n'a de repos que si elle repose en toi, Seigneur, la fameuse phrase de saint Augustin. Donc, prenons conscience de ça, au fond, que cette invitation à remettre dans le Seigneur sa confiance. Et c'est pour ça que Jésus dira, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Parce qu'au fond, seuls les pauvres de cœur sont capables d'accueillir le salut. C'est la fameuse bonne nouvelle annoncée aux pauvres en Luc 4, 18. Ils sont capables d'accueillir la bonne nouvelle. Ils ne sont pas repus. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que j'attends, est-ce que je suis repu? Et ça, les psaumes en parlent très souvent. Le pauvre, c'est celui qui attend quelque chose, qui n'a pas en lui-même quelque chose, donc qui est en état de désir. Et la parole de Dieu, en particulier les psaumes, fustigera tous ceux qui veulent trouver un repos, hein, être repu dans les choses matérielles. Parce que là, c'est là l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, ça se définit comme ça, c'est donner aux choses ou aux personnes quelque chose qui appartient à Dieu seul. Entre autres, seul Dieu peut donner un repos et un repos pour toujours. Et en dehors de lui, notre âme n'a pas de repos. Et on n'a qu'à voir notre société. Je veux dire, une société, dans... et puis nous-mêmes, hein, on ne va pas confesser les autres, hein. Nous-mêmes. Est-ce que vraiment cette certitude que en Dieu, seul est le repos de l'âme? Alors du coup, ça remet, vous voyez, toutes les choses à leur place. Quand on dit ça, qu'en Dieu il y a le repos de l'âme, on n'est pas dans une attitude mystico-gélatineuse qui ferait qu'on est complètement déconnecté des biens matériels. Si Jésus s'est incarné, si Jésus a pris possession aussi de notre terre, si Jésus est rentré dans une famille humaine, si Jésus a utilisé des biens matériels, s'il a permis que des biens matériels soient mis à son service, c'est pas pour rien, mais c'est pour nous apprendre à les utiliser. Comme pour tout, parce qu'avec le péché originel, il y a comme cette cassure qu'il y a dans l'homme. Il ne sait plus, hein, il écoute, mais il comprend pas. Et donc Jésus est revenu réouvrir l'oreille de l'homme pour faire redécouvrir à l'homme sa propre vocation. Et puis le Seigneur lui-même a choisi de se faire pauvre, hein, comme dit l'apôtre saint Paul, à la deuxième aux Corinthiens 8-9, « Il nous enrichit de sa pauvreté. » La grande pauvreté de la crèche, la grande pauvreté de la croix, dans ce temps de carême où on se prépare à contempler Jésus dans une nudité, d'un total abandon. Pour refaire découvrir à l'homme qu'il est une créature. Qu'il doit tout recevoir de Dieu. Vous reconnaissez cette fameuse phrase du curé d'Ars ? L'homme est un pauvre qui doit tout demander à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la question de l'argent, c'est qu'au fond, il nous empêche, il entretient une autosuffisance. Il peut entretenir, s'il est mal utilisé, une autosuffisance. Il donne les moyens d'être autosuffisant. Autosuffisant de Dieu. Comme une certaine forme de toute puissance. C'est pour ça que Jésus dira, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, en Matthieu 6, 24. Entre Dieu et l'argent, il faut choisir. Alors j'ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il insiste autant sur l'argent? Alors j'ai une réponse, mais bon, peut-être il y en a certainement d'autres, mais j'ai une réponse, c'est au fond, parce qu'il y a les trois formes d'orgueil, vous vous rappelez, on l'a souvent évoqué dans nos rencontres, ces trois formes d'orgueil, l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit. Mais au fond, l'argent permet ou donne les moyens à l'orgueil de l'esprit et à l'orgueil de la chair de s'exercer. Quelqu'un qui est très orgueilleux mais qui n'a aucun moyen, ben, d'une certaine manière, son orgueil, il est limité par sa pauvreté. Mais dès qu'une personne orgueilleuse a les moyens de son orgueil, alors là, ça devient terrible. parce qu'il a les moyens de son orgueil. Tout ce qui concerne la chair, une chose, c'est tenter par la convoitise de la chair, la luxure, etc. Mais si on n'a pas d'argent, on n'a rien. On est limité. Mais quand j'ai l'argent, j'ai les moyens de mener à terme ma luxure. On voit bien, par exemple, au niveau des pouvoirs politiques, ce n'est pas seulement le pouvoir politique qui compte. Est-ce que j'ai les moyens de l'exercer? C'est pour ça que cette grande différence entre pays pauvres et pays riches, dans les pays pauvres, ils sont élus, dans un certain nombre, en tout cas pas tous, mais de façon assez démocratique, assez légitime, mais ils n'ont aucun moyen d'exercer leur pouvoir. Donc, ils vont être les vassaux de ceux qui ont de l'argent. Vous voyez, donc c'est pour ça, au fond, je trouve que dans l'argent, c'est un point de convergence. Hein, et c'est pour ça que Dieu dit, entre moi et l'argent, il faut choisir. Parce que l'argent donne aux autres formes d'orgueil les moyens de s'exercer. C'est plus exigeant d'être sain quand on a beaucoup de moyens que quand on n'en a pas. Parce qu'on a beaucoup plus de possibilités aussi de prendre des chemins de traverse. C'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus exigeant. Plus exigeant, par exemple, pour vivre la patience. Alors la question de la patience, c'est assez intéressant. La patience, ça veut dire, au fond, ou plutôt l'impatience, qui est une forme de toute puissance, qui me met dans une situation tout de suite. Bon, c'est un peu dans l'air ambiant aussi. Mais quand on n'a pas les moyens, ben on doit attendre, on doit dépendre. Et je trouve aussi que dans le contact avec les personnes plus pauvres, il y a toute une, au fond, une grâce qui est donnée aussi, qui nous est donnée. Parce qu'on redécouvre, au fond, un autre rythme. Un rythme, on peut dire, plus humain. Et c'est pour ça qu'au fond, cet argent, il est aussi vécu dans une dimension de solidarité, donc une dimension communautaire. Une dimension communautaire. Non seulement personnelle, mais une dimension communautaire. C'est l'originalité de la position de l'Église. C'est un peu ce que dit Jésus dans l'évangile du riche et du pauvre Lazare. Il ne reproche pas aux riches d'être riches. Non, il lui reproche, tu avais à ta porte quelqu'un qui était complètement affamé. Mais pourquoi tu n'as rien fait? Parce qu'au fond, dans la Bible, il y a cette certitude, le riche est responsable du pauvre. S'il a des biens, ce n'est pas pour lui-même. Nul ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, dit saint Paul, si nous mourons pour le Seigneur. On ne vit pas pour soi-même. Et c'est ça un peu la question des richesses. Cette possibilité d'enfermement. On peut dire que la position de l'Église, donc, est la chose suivante. C'est à moi, mais c'est pour tous. C'est ce que l'on appelle en doctrine sociale de l'Église la destination universelle des biens. les biens qui sont sur la terre sont pour tous. Donc à la fois, il y a dans la doctrine sociale, bon, on ne va pas aborder toutes les questions de la doctrine sociale parce que ce serait assez long, mais l'argent, la relation à l'argent, évidemment, en fait partie. Hein. À la fois, il y a l'affirmation de la propriété privée, qui a toujours été reconnue par l'Église, mais à la fois la destination universelle des biens. Une solidarité, on est responsables les uns des autres. La propriété privée n'est pas un droit absolu. Ce qui est un droit absolu, c'est le bien de la personne. La propriété privée, donc, est une responsabilité face à la communauté humaine. C'est reconnu comme un moyen au service des hommes. Et donc l'homme a été mis sur terre comme ce gérant pour user et faire prospérer les biens de ce monde. Mais comme gérant, c'est, et Saint Paul le dira, je n'ai pas la référence, mais posséder comme si vous ne possédiez pas. Ayez les choses comme si vous ne les aviez pas. De certaine manière, cette attitude de grande liberté intérieure. C'est l'homme qui est la mesure de l'utilisation des biens. Et la finalité de l'utilisation des richesses, c'est le bonheur de l'humanité. Et tout homme, toute femme a le droit à certains biens. C'est un droit naturel. A le droit à avoir les biens minimaux pour exercer son humanité. Droit à l'alimentation, droit à une maison. Droit à l'éducation, droit à la santé, ça vient du droit naturel de la personne. Et c'est pour ça que l'Église toujours rappelle cette question de solidarité, parce qu'au fond, Jésus, ça s'enracine non pas dans un certain humanisme, ensuite bon, tout le monde le reprend à son compte comme un humanisme, c'est notre société a repris l'humanisme, elle a enlevé le Christ. Mais c'est parce que Jésus lui-même, dans sa personne, réapprend à utiliser les biens en fonction du bonheur de l'humanité. Et le pape toujours de rappeler, et dans toutes les encycliques ou documents du magistère concernant la doctrine sociale de l'Église, il a été rappelé clairement, hein, il y a un devoir aussi de ceux qui ont face à ceux qui n'ont pas, de solidarité. Je trouve que ça s'est très bien exprimé avec cette grande catastrophe de la fin de l'année dernière, où on a vu dans ce mouvement mondial, et c'est très beau, cette mondialisation aussi de la solidarité, tout de suite les gens se sont proposés, et des tas d'initiatives ont né, c'est extraordinaire, parce que les personnes sont, de certaine manière, c'est là où on voit que c'est naturel. C'est pas quelque chose de surnaturel. Jésus est venu aussi donner une autre dimension, on verra après, mais c'est naturellement on se sent responsable quand même les uns des autres. On dit, si je fais rien, je suis un monstre. Alors, pour ça, pour une autre œuvre, pour ceci, pour cela. Mais donc, c'est à moi et c'est pour tous. C'est différent du marxisme qui dit, c'est à tous et c'est pour tous. Donc la négation de la propriété privée, vue comme une source de division entre les hommes. Alors c'est vrai que les exemples sont assez multiples. Hein. Et Marx, quand il a élaboré sa doctrine, était face à la révolution industrielle du 19e siècle, où précisément on voyait l'utilisation de l'homme par l'homme, en vue des richesses. Donc ça s'est fondé sur une réalité, sa réflexion. Mais c'est là où c'est pas juste, c'est la négation de la propriété privée, qui est aussi un droit naturel de la personne. Il y a une nature humaine et de là découlent des droits et des devoirs. dans l'Ancien Testament, on voit aussi cette dimension aussi communautaire. Premièrement, la richesse était vue comme un signe de bénédiction. Hein? Abraham, avec beaucoup d'esclaves, beaucoup de biens, le saint roi David, Salomon. De même, la description de la terre promise, hein? Le Seigneur, ton Dieu, te conduit vers un pays heureux, un pays de torrents, de sources. Il faut se mettre dans l'ambiance locale qui est de sécheresse, hein? De sources qui sourdent de l'abîme, dans les vallées comme dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, d'olivier, d'huile, de miel, pays où le pain ne te sera pas mesuré, où tu ne manqueras de rien. Exode 8, 7 à 10. Donc, Israël, pour Israël, être béni de Dieu, c'est être comblé aussi de richesses. Et ça, il y a une affirmation derrière ça, c'est que pour le peuple hébreu, il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a pas de récompense dans l'au-delà. Il n'y a pas cette notion. Cette notion-là, elle est strictement apportée par Jésus. Et c'est la grande nouveauté du christianisme. Pour le juif, il n'y a pas d'au-delà. Les âmes vont dans le Sheol, sorte de lieu, il y a le lieu des morts. Mais on ne sait pas bien où c'est. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est sur cette terre. Ce n'est pas après. On ne parle pas de récompense. C'est pour ça que le psalmiste, bien souvent, il s'étonne, il dit, mais comment est-ce que ça se fait? Il y a les justes qui sont pas, qui souffrent misère, etc. Et les pécheurs, on les voit repus. Et il s'adresse à Dieu, mais que fais-tu? Et on ne peut pas imaginer la bonne nouvelle que c'était pour les gens d'Israël, d'entendre les paroles de Jésus, « Bienheureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous. » Il est, et c'est la seule des béatitudes qui est au présent. Jésus va donner aussi une autre dimension à l'argent, c'est cet aspect justement de signe aussi du royaume qui vient. La pauvreté est le signe du royaume qui vient. Jésus est vécu pauvre, chaste et obéissant en fonction pour annoncer le royaume qui vient. Mon royaume n'est pas de ce monde. Les choses de ce monde ne peuvent pas vous combler. Elles comblent certaines choses, mais elles ne peuvent pas vous combler. Au fond, pour le Seigneur, l'affirmation de la pauvreté est aussi le signe que l'on est appelé à vivre pour l'éternité avec Dieu. Je ne vis pas pour moi-même. C'est faire prendre conscience à l'homme qu'il est dépendant. Ce dont nous avons une sainte horreur, disons-le simplement. On aime tellement notre indépendance, à tous les niveaux. Et les biens sont au service de notre indépendance. L'indépendance conçue comme bonheur. Alors que c'est la relation qui apporte le bonheur. C'est, vous voyez, c'est là où il y a un piège, dans lequel on tombe tous. Hein. C'est dans la relation qu'il y a le bonheur, qu'il y a la joie, il y a dans la communion, c'est pas dans l'indépendance. Il faut surtout être autonome. Autonome, c'est intéressant de voir d'où vient la parole autonome. Autonomos, nomos en grec, c'est la loi. Autopropre, de se donner à soi-même sa propre loi. On aime tellement ça. C'est pas le lieu ici, mais quand on va au bout de cette logique, ça conduit tôt ou tard à la négation de l'homme. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de détailler, mais quand l'homme se fixe sa propre personne comme loi, eh bien, évidemment, c'est une source d'affrontement. Ça, on pourra. Les individualités s'affrontent. Au fond, la vraie richesse, ce n'est pas tellement celle qu'on possède, mais celle qu'on donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, acte des apôtres 20-35. Cet appel à vivre, abandonné à la divine providence, quand on ne maîtrise plus les choses, quand on n'y arrive pas, parce que le pauvre, ce n'est pas tellement celui qui n'a pas, c'est celui qui ne peut pas. Qui vit d'une certaine manière une impossibilité. Et chacun de nous, on peut voir dans nos familles, dans nos... on vit, il y a des lieux d'impuissance, il y a des lieux où on n'arrive pas, on ne peut pas changer les choses. C'est le lieu de l'abandon. Alors vous voyez bien, Jésus n'en fait pas une question simplement monétaire de l'argent. L'argent, il est sans odeur, c'est vrai. Quelle est la personne qui le possède? Il sera bon si vous êtes bon. Il sera saint si vous êtes saint. Il sera mauvais si on l'utilise, si la personne qui l'utilise, c'est mauvais. Mauvaise. Donc, au fond, c'est l'invitation à une conversion. Mais au sens large, de vraiment choisir le Seigneur dans notre vie, de nous enraciner dans une vie de prière. Une vie de prière qui affirme la dépendance de notre vie face au Seigneur. Chaque fois que je prie, je dis au Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Voilà un peu ce dont je souhaitais vous parler ce matin.